Bonjour à tous. Prions. Dieu notre Père, alors que nous discutons, nous abordons des choses difficiles et douloureuses pour nos frères et sœurs à travers le monde, mais pour nous aussi qui pouvons connaître ces choses, donne-nous Seigneur de pouvoir être encouragés, réconfortés, consolés par ta parole. Merci parce que tu es un bon Dieu, tu es notre Dieu et que tu nous fais du bien. Et Seigneur, donne-nous de voir cela encore ce matin. Amen. Alors, le site évangélique Info nous rapporte qu'en 2021, en Europe, les actes antichrétiens ont progressé de 70% entre 2019 et 2020. Lieux de culte vandalisés, interdiction de parler, de partager la foi chrétienne, pression et intolérance envers les chrétiens au travail, à l'école, dans l'espace public. Et tout ça pour dire que la persécution, toute proportion gardée, est aussi une réalité chez nous en Belgique. Et pour certains d'entre nous, nous sommes déjà confrontés à ces choses. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, attendons-nous à y être confrontés. Ça arrivera. Nous ferons tous face à ces situations où l'on se retrouve moqué, rejeté, insulté, harcelé, discriminé. Et donc, il faut que nous nous attendions à connaître la souffrance. Les deux vont toujours de pair, persécution et souffrance. Et il y aurait beaucoup de choses à dire concernant la souffrance chrétienne, son rôle dans la pédagogie de Dieu pour nous faire progresser dans la foi et dans la sainteté, son rôle dans la révélation de la puissance et de la gloire de Dieu. Et c'est bon, utile et nécessaire de nous intéresser à ces choses, de creuser ces choses, de prendre de la hauteur, de pousser la réflexion, de comprendre des choses compliquées, car ça nourrit notre esprit, ça nourrit notre âme, ça nourrit notre foi, ça nous fait progresser dans notre marche avec Dieu. Mais c'est bien aussi lorsque nous revenons à des choses plus simples, plus pragmatiques, plus concrètes, plus terre à terre. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, considérer la souffrance comme simplement de la souffrance. C'est-à-dire le fait pour nous de subir des douleurs physiques, psychologiques et morales. Et voir comment on fait face à la souffrance, comment on peut soulager la souffrance, comment on peut apaiser la souffrance, comment on peut endurer la souffrance avec joie. Et puisque c'est un dimanche consacré à l'Église persécutée, nous aborderons donc le thème de la souffrance sous l'angle de la persécution. Mais sachez que ce que nous allons voir s'applique aussi à la souffrance d'une manière plus large, à la souffrance d'une manière générale, quelle que soit sa cause, maladie, difficulté dans la vie, on peut appliquer ce que nous allons voir à la souffrance de manière générale. Et donc, si vous souffrez à cause de la persécution ou à cause de toute autre chose, eh bien, ce message est pour vous. L'une des personnes les mieux placées pour nous parler de la persécution et de la souffrance est le roi David. En effet, la vie de ce grand roi d'Israël a été marquée par la persécution et la souffrance. Il a eu de nombreux ennemis qui, tout au long de sa vie, n'ont cessé de le pourchasser, le persécuter. Ils ont tenté de le renverser et même de le tuer. Et David a beaucoup écrit sur ses sentiments, sur ses états d'âme, sur ce qu'il ressentait au plus profond de lui-même lorsqu'il traversait ces moments d'épreuve intenses. Et nous retrouvons beaucoup de ses écrits dans le livre des psaumes. Et l'un d'entre eux est le psaume 13. Et je vous invite donc à ouvrir la Bible au psaume 13 pour voir ce que ce grand roi d'Israël, David, a fait lorsqu'il a traversé la persécution et la souffrance. Psaume 13. Au chef de cœur Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et donc, le titre de la prédication ce matin, c'est « Trois choses à faire face à la persécution et à la souffrance. » Première chose à faire, se plaindre. Jusqu'à quand, Seigneur, plaignons-nous? Versets 2 et 3. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Voilà ce qui nous frappe d'emblée lorsque nous lisons les versets 2 et 3. Cette phrase qui revient sans cesse comme un refrain, cette phrase répétée inlassablement dans la bouche du roi David. Jusqu'à quand, Seigneur? Et ce refrain nous permet de comprendre deux choses. Premièrement, la grande souffrance, la détresse absolue du roi David lorsqu'il rédige ce psaume. On comprend à travers ces mots répétés que le roi n'en peut plus. Il est à bout, il est complètement lessivé par la persécution et la souffrance auxquelles il fait face. David n'est plus en capacité d'encaisser, de supporter, de se battre avec la souffrance qui a fait son nid dans sa vie, qui s'est installé de manière permanente et durable et qui ne veut plus le quitter, qui jour et nuit l'accable. Deuxièmement, ce que nous comprenons à travers cette phrase répétée 4 fois, « Jusqu'à quand, Éternel ?», nous comprenons que la souffrance de David lui permet, lui autorise de se plaindre auprès de Dieu. David est autorisé, il a le droit de le faire, et c'est même une bonne chose pour lui de le faire. Et c'est tellement permis et bon que David ne s'en prive pas, il se plaint inlassablement auprès de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Encore combien de temps vais-je devoir endurer ces souffrances? Maintenant, nous voulons voir quelles sont ces souffrances qui autorisent David à se plaindre auprès de Dieu. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Ici, David se plaint de ne pas ressentir la présence de Dieu de manière objective, concrète. Et ces deux phrases exprime la même idée. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu oubliait une personne, lorsque Dieu cachait son visage à une personne, cela signifiait que Dieu n'était plus avec cette personne, qu'il n'était plus présent avec elle. Or, la présence de Dieu offre à celui qui en bénéficie la protection et la bénédiction divine. Et à l'inverse, être séparé loin de Dieu conduit à la malédiction, la punition et la condamnation divine. Et donc ici, David exprime sa souffrance de ne pas ressentir la présence de Dieu de manière objective, concrète. David souffre de voir Dieu tarder à agir dans sa vie. Il n'est pas en train de dire que Dieu l'a réellement oublié et quitté. Il exprime juste le fait que sa situation présente s'apparente à ces personnes qui n'ont pas Dieu avec elles. Car Dieu, dans sa souveraineté, tarde à agir en faveur de David, qui, en attendant, doit vivre les coups, les trahisons, la persécution, la souffrance, comme si Dieu l'avait oublié, lui avait caché sa face. Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins dans mon cœur ? Ici, le roi David exprime, se plaint de sa souffrance psychologique, psychique et morale. David, à cause de tous ses ennemis qui l'entouraient, était constamment tourmenté. Lorsqu'il se couchait pour aller dormir, la peur, le doute, la crainte, l'angoisse l'envahissent et l'empêchent de dormir, de trouver le sommeil. Et lorsque, une fois qu'il a trouvé un peu de répit, eh bien, il doit se lever. Et lorsqu'il se lève, il se lève avec la boule au ventre en se demandant « Mais qu'est-ce qui va m'arriver encore aujourd'hui ? Quel ennemi vais-je croiser ? Quel combat vais-je devoir encore mener ?» Les chagrins du cœur expriment sa souffrance de la solitude. David se sent seul, isolé, abandonné face à tous ses ennemis qui en veulent à sa vie. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Ici, David se plaint de la souffrance d'être dans une impasse. C'est sans issue. L'ennemi est trop nombreux, trop grand, trop fort, et sans cesse, il m'attaque, tandis que moi, je suis trop faible, trop petit, manquant de plus en plus de force. Je n'en peux plus. Jusqu'à quand ? Face à la souffrance de ne pas ressentir la présence de Dieu de manière objective, concrète, de se sentir seul, isolé, abandonné, envahi par la crainte, le doute et l'angoisse, d'être dans une impasse, que fait le roi David ? Il se plaint à Dieu. Et avec ce que nous venons de voir, cela m'amène à dire que nous avons aussi le droit, la permission de nous plaindre à Dieu. Nous avons le droit de nous plaindre à Dieu. Et j'insiste là-dessus, car je remarque que nous sommes souvent réticents et hésitants pour nous plaindre à Dieu. Il n'y a qu'à voir notre réaction lorsqu'on nous demande « As-tu des sujets de prière ?» ou « As-tu des sujets de plainte à me partager ?» Et notre premier réflexe, pas toujours, mais souvent, ce sera « Non, 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 ça va, tout roule, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Et si c'est ainsi, ce n'est pas tellement parce que nous n'avons pas de plainte à faire entendre à Dieu, mais la raison est plus que, est-ce qu'on a le droit ? Est-ce acceptable ? Est-ce que c'est autorisé de se plaindre pour cela ? Il me semble qu'il existe deux raisons au moins à cette réticence. La première est que dans notre esprit, la plainte est connotée négativement. Se plaindre, c'est mal. C'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit, n'est-ce pas ? Arrête de te plaindre pour rien. Et c'est juste. Il ne faudrait pas se plaindre pour rien. Nous ne devrions pas nous plaindre pour rien, de toujours tout ramener à nous-mêmes. Mais au fil du temps, nous avons développé en fait ce réflexe de ne plus nous plaindre du tout pour quoi que ce soit. Et ça, c'est pas bon. L'autre raison qui nous empêche de nous plaindre est que nous avons tendance à relativiser, à minimiser notre propre souffrance. C'est vrai qu'au travail, je suis harcelé, je suis moqué, rejeté par mes collègues, par mes chefs, à cause de ma manière de voir les choses, à cause de ma manière de travailler, parce que je veux travailler d'une manière qui glorifie Dieu, sans tromperie, sans mensonge, sans léser mes clients. Et cette situation de rejet me fait terriblement souffrir. J'ai l'impression que Dieu est loin. J'ai l'impression d'être isolé. Je suis rempli de doutes et de craintes. J'ai pas envie d'aller au travail le lendemain. J'ai l'impression d'être dans une impasse. Mais ai-je le droit de me plaindre ? À Dieu, à mes frères et sœurs en Christ, surtout lorsque je viens d'apprendre à travers la lettre de nouvelles de Portes Ouvertes que Ismaël, un jeune chrétien du Yémen, est enfermé depuis 5 ans en prison à cause de sa foi. Ai-je le droit de me plaindre ? Lorsque mes frères et sœurs me rappellent que tu es privilégié, tu as de la chance d'avoir cette liberté d'adorer Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais la souffrance est là. Ai-je le droit de me plaindre ? Eh bien, oui. Tous ceux qui ont faim et soif de la présence de Dieu, qui sont abattus moralement, qui se sentent seuls et isolés, qui sont dans l'impasse, sans solution, ont le droit de se plaindre à Dieu. Et ils doivent le faire. C'est nécessaire, parce que cela est bon pour eux. En tant que chrétiens, nous sommes un peu comme des cocottes minutes. On est bien sûr, par la grâce de Dieu, capable d'encaisser, d'endurer dans une certaine mesure la pression, la souffrance, mais il est nécessaire et bon de régulièrement libérer la pression, l'évacuer. Car si ça n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça explose. Et l'explosion peut être dévastatrice. Amertume, rancœur, burn-out, dépression, pensée suicidaire même, pour certains. Des choses assez graves et lourdes que nous ne voulons pas vivre. Alors, dans la souffrance, plaignons-nous à l'Éternel. Et aussi à nos frères et sœurs en Christ qui peuvent se plaindre pour nous. Relâchons la pression, parce que cela est bon pour nous. Deuxième chose à faire, versets 4 et 5, supplions à l'Éternel. Regarde et réponds. Donne, supplions l'Éternel. Un autre fait intéressant à remarquer dans ce psaume 13, une autre répétition, est la personne à qui David s'adresse. Son nom revient 3 fois, au verset 2, au verset 4 et au verset 6. Son nom en hébreu est Yahweh, qu'on traduit en français par l'Éternel. Et le fait que David appelle Dieu par son nom propre nous fait comprendre premièrement qu'il connaît Dieu personnellement. David connaît Dieu, il l'appelle par son nom. Et deuxièmement, cela nous fait comprendre que David connaît aussi la réputation de Dieu. Pourquoi ? Parce que le nom propre de Dieu sert non seulement à désigner Dieu, mais sert aussi à le décrire, sa personne, comment il est. Et Yahweh veut dire « Je suis celui qui suis ». Et ce nom divin décrit 2 aspects de la personne de Dieu. Sa transcendance, donc « Je suis celui qui suis » de toute éternité, je n'ai ni commencement ni fin, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui a tout créé, souverain et maître au-dessus de toute chose. Je suis Yahweh, l'Éternel. Donc la transcendance. Mais le nom divin, Yahweh, je suis celui qui suis, évoque aussi l'immanence de Dieu. Je suis celui qui suis au milieu, proche, en présence de mon peuple, en relation personnelle et intime avec mon peuple, pour l'écouter, lui venir en aide, intervenir en sa faveur, le secourir, lui faire du bien. Et c'est donc à Yahweh, à l'Éternel, que David s'adresse. Le Dieu transcendant, tout-puissant pour faire des choses et à la fois immanent, proche et personnel pour vouloir faire des choses pour ceux qu'il aime. Et c'est donc à cause de la réputation de Dieu que David n'hésite pas à le supplier. Et remarquez l'audace avec laquelle David s'adresse et demande à l'Éternel. Il emploie l'impératif au verset 4. Il dit « Regarde ma situation, réponds, donne !» Et cela pourrait s'apparenter à de l'irrévérence, à un manque profond de respect, peut-être même de l'insolence. Mais en fait, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. L'audace de David traduit en réalité son plus grand et profond respect pour Dieu. Si ce soir, un criminel s'introduisait chez vous pour vous faire du mal à vous et à votre famille, que feriez-vous ? Eh bien, vous prendriez votre téléphone, appelleriez tout de suite la police et vous diriez avec audace « Venez vite, protégez-nous et sauvez-nous !» Vous feriez preuve d'audace dans votre manière de vous adresser à la police parce que vous savez, vous reconnaissez qu'ils sont les seuls capables, compétents pour apporter une solution à votre problème. En plus de l'audace dont fait preuve David, nous voyons qu'il n'hésite pas non plus à demander des choses très précises et spécifiques. Il demande à Dieu des réponses, des solutions qui sont en rapport avec ses problèmes. À certaines périodes de sa vie, le roi David risquait la mort tous les jours. Et donc, par rapport à cette situation précise, il demande « Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. » Face à ces circonstances spécifiques, David demande des choses précises et spécifiques. Donne-moi, accorde-moi de ne pas mourir. Donne-moi de rester en vie encore, de me tenir face à mes adversaires afin qu'ils ne se moquent pas, afin qu'ils ne me raillent pas. Et donc, nous voyons que David ne demande pas à Dieu des choses générales, génériques, comme « Éternel, bénis-moi » ou « Fais-moi du bien, Éternel, donne-moi la paix et la joie dans mon cœur, montre que tu m'aimes. » Non, face à la souffrance, David supplie Dieu avec audace, mais aussi de manière précise et spécifique. Nous qui connaissons, qui traversons des périodes de souffrance, nous avons le droit de demander avec audace des solutions de réponses précises et spécifiques à Dieu. Mais là encore, il me semble que nous manquons parfois d'audace dans nos demandes à Dieu. Et l'une des raisons majeures à notre manque d'audace n'est pas que nous ne croyons pas en la toute-puissance de Dieu. Nous savons qu'il est tout-puissant. Mais nous nous croyons aussi plus forts, plus compétents que nous ne le sommes réellement. Nous pensons être capables de régler nos problèmes par nous-mêmes. Et ça, c'est faux. Et donc, plutôt que de demander à Dieu, on va essayer de s'occuper de nos problèmes nous-mêmes. Une autre raison pour laquelle nous sommes réticents dans notre manque d'audace est que nous croyons plus à la transcendance de Dieu qu'à son immanence. Dieu est tout-puissant, il peut tout, je le sais, mais il doit sûrement s'occuper des chrétiens qui ont de vrais problèmes, de vraies souffrances, pas mes petits soucis. Pour ces petits soucis-là, Dieu me demande d'endurer, de persévérer. Non, notre Dieu est immanent, c'est-à-dire présent, proche de chaque chrétien à travers le monde, de toi et de moi, dans chacune de nos situations, de manière particulière, personnelle, spécifique, attentive. Dieu est attentionné envers chacun de ses enfants. Il est au plus proche de nous lorsque nous souffrons et toujours prêt à intervenir en notre faveur. Enfin, troisième et dernière application face à la persécution et la souffrance, la bonté et la fidélité de Dieu, considérons-la et remercions-le pour cela. Au verset 6, nous lisons « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » On lit ce verset 6 et on se dit, est-ce qu'on est passé au psaume 14? Est-ce que c'est toujours David qui parle? Et nous aurions raison de nous poser toutes ces questions tellement, remarquez, le ton et l'ambiance du verset 6 sont radicalement différents de ce qui a précédé. On est passé par la lamentation, versets 2 et 3, la supplication, versets 4 et 5, et on arrive là à la bénédiction, verset 6. Mais oui, nous sommes toujours dans le même psaume, le psaume 13, et c'est toujours le roi David qui parle, ce roi qui est persécuté, qui souffre. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment David, au milieu de la persécution et de la souffrance intense, peut en arriver à bénir l'Éternel? Eh bien, la réponse nous est donnée au début du verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. David se repose sur ce qu'il sait de l'Éternel. L'Éternel est fidèle et bon. J'ai confiance en la bonté et en la fidélité de Dieu. C'est ça qui caractérise un Dieu, sa bonté et sa fidélité. Et David sait, il a confiance que la bonté et la fidélité de Dieu ne le laisseront pas dans cette situation. Et il a tellement confiance qu'il parle de ses problèmes évoqués versets 3 à 5, de ces problèmes-là, il en parle appartenant déjà au passé, comme si c'était déjà résolu. Regardez à la fin du verset 6, il dit quoi? Il dit « L'Éternel m'a fait du bien ». La bonté et la fidélité de Dieu sont tellement certaines, fiables, abondantes, toujours disponibles, que toute la persécution, toute la souffrance que David vit, connaît, pâlisse, semble devenir insignifiante lorsqu'elles sont mises à côté de la bonté et de la fidélité de Dieu. C'est un peu comme lorsque, en quittant le travail sur le chemin du retour, vous repensez à votre journée de travail, où votre chef, vos collègues n'ont pas arrêté d'être mesquins, d'être mauvais, méchants, désagréables envers vous. On vous a traité injustement, mis de côté, mis à l'écart. Tout ça parce que vous voulez, par votre travail, glorifier Dieu. Et vous pensez au lendemain et vous dites, ça sera la même chose, ce sera rebelote. Vous êtes démoralisé, pas de joie, et vous souffrez de cette situation. Mais vous arrivez enfin chez vous, vous passez le palier de la porte, et à l'instant même, vos enfants et votre épouse ou votre époux, plein sourire, courent vers vous, se jettent à vos bras et vous embrassent. Ou encore, vous rentrez et vous ouvrez le frigo et vous dites, et vous voyez qu'il reste cette bonne part de bon gâteau au chocolat de votre pâtissier préféré. Eh bien, la joie que vous procurent ces choses vous permettent, sur le moment, d'endurer, d'oublier la souffrance. Et c'est ce que David est en train d'expérimenter lorsqu'il considère, s'appuie, se repose sur la bonté et la fidélité de Dieu. À la différence que la bonté et la fidélité de Dieu ne font pas que réconforter David, mais vont agir en sa faveur pour régler ses problèmes. À la différence que la bonté et la fidélité de Dieu ne sont pas éphémères et limitées, mais toujours disponibles et abondantes. David, considérant, ayant foi, s'appuyant sur la bonté et la fidélité de Dieu, est dans la joie, quelles que soient les circonstances. Car ultimement, il sait que Dieu l'aime, s'occupe de lui, lui fait du bien, prend soin de lui. Et c'est ce qu'il conduit alors à remercier Dieu. Il dit, deuxième partie du verset 6, « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel. » Cette bonté et cette fidélité de Dieu, nous l'avons, nous aussi. Et Dieu nous l'a démontré à nous d'une manière plus probante encore par rapport à David. En effet, Dieu nous a manifesté sa bonté et sa fidélité, son amour en nous donnant Jésus, qui nous délivre et libère de notre plus grande souffrance, de notre plus grande persécution, le péché et la mort. Je lis en Romains chapitre 5 pour voir comment Dieu a prouvé son amour et sa bonté envers nous à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus joyeux que la bonté et la fidélité de Dieu manifestées en Jésus-Christ pour la délivrance face au péché et à la mort. Considérons cela. Appuyons-nous sur cela. Reposons-nous sur cela. Et ayons l'assurance que si Dieu s'est déjà occupé de notre plus grande détresse, de notre plus grande persécution, de notre plus grande souffrance en nous donnant Jésus pour nous libérer, nous sauver, à plus forte raison, Dieu s'occupera des autres souffrances, des autres persécutions que nous vivons dans la vie présente, d'une manière ou d'une autre. Face à la souffrance et à la persécution, trois choses à faire. Plaignons-nous à Dieu. Supplions Dieu avec audace, avec précision, de manière spécifique. Et troisième chose, considérons la bonté et la fidélité de Dieu et louons-le pour cela. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es l'Éternel, tu es celui qui existe de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin. C'est toi qui as tout créé, c'est toi qui es maître et souverain sur toutes choses, et à toi tout est possible. C'est toi l'Éternel qui est aussi proche de ton peuple, qui est en relation personnelle avec ceux que tu aimes, qui est attentif à chacune de nos situations et qui veut agir en notre faveur. Et nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, que nous avons un Dieu tel que toi, à qui nous pouvons nous plaindre, à qui nous pouvons demander des choses avec audace et précision, et surtout qui a déjà réglé notre plus grand problème en nous donnant Christ, qui nous libère de la persécution du péché et de la mort. Merci Seigneur d'être avec nous jour après jour, de connaître toutes nos situations et de nous promettre que tu seras à nos côtés, agissant dans chacune de nos situations. Donne-nous, Seigneur, de nous appuyer sur toi, d'avoir foi en toi, en ta bonté et ta fidélité. Amen.